C'est toujours un moment émouvant de voir partir quelqu'un. Je vous propose aujourd'hui une émission spéciale avec vous, Père Régis-Marie de la Tessonnière. Bonjour.
Bonjour.
Je disais que c'est toujours triste de voir quelqu'un partir, puisque vous êtes en partance dès le 10 septembre prochain. Vous avez quitté le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Vous êtes arrivé ici le 29 mars 1996.
Vous me disiez, 13h10 à l'époque où les trains étaient à l'heure.
Voilà. vous avez de l'humour de temps en temps, vous le glissez. Et alors c'est votre des fois votre la façon dont vous annoncez les choses, vous avancez les choses qui sont un peu déroutantes, mais vous avez beaucoup d'humour.
Alors peut-être de l'humour, mais aussi de la mémoire. Que disait Bernadette au moment de son départ quand elle quitte Lourdes? En juillet 1866, on est sur le quai de la gare, tout le monde pleure, et Bernadette dit à l'une de ses proches, à une de ses amies proches, « Vous êtes bien bonne de pleurer, je ne peux pas rester à Lourdes toute ma vie. » Voilà.
Vous résumez un peu votre départ.
Un petit peu.
On va prendre dans cette émission un peu le temps de vous découvrir. Vous êtes arrivé le 29 mars 1996, vous êtes donc prêtre. Vous êtes né à Pau.
Je suis né à Pau, effectivement, 39 km de Lourdes.
Voilà, et vos parents, comme vous disiez, tous les Palois, beaucoup de Palois, à une époque, sont partis vers le Pays Basque.
Alors ça, c'est plus tard. Mais avant de partir vers le Pays Basque et vers le sud des Landes, mes parents avaient pour habitude de venir comme pèlerins une fois par mois à Lourdes.
D'accord.
Voilà, donc je suis venu à Lourdes 9 fois avant ma naissance.
Ah oui, oui.
Venir à Lourdes, c'est-à-dire aller à la grotte. Voilà. Et à chaque fois que nous allions marcher dans la montagne ou faire du ski, eh bien, il y avait toujours, à l'aller de préférence, ou au retour dans certains cas, l'arrêt à la grotte.
À la grotte. Voilà. La grotte vous a toujours...
Voilà, fait partie de l'existence de notre famille.
Mmh. Vous m'avez raconté, en préparant cet entretien, l'appel. L'appel, il a eu lieu en 2 fois.
Alors effectivement, j'étais
pour devenir prêtre.
Effectivement, je suis né à Pau, mais j'ai passé 4 ans de ma vie à Bétharram, où il y a un établissement scolaire qui était tenu par des Basques à l'époque. Et c'est là où j'ai reçu l'appel à devenir prêtre. J'avais 11 ans, mais j'ai refusé cet appel. Pourquoi ? Parce que j'avais mon propre projet, et notamment de conduire des tracteurs, de faire de l'agriculture, de faire de l'architecture, enfin voilà. J'étais aussi intéressé par tout ce qui a un lien avec l'écriture. Et donc être prêtre, pour moi, ça me semblait aller contre tout ce qui me tenait à cœur alors que j'étais encore un enfant. Mais voici qu'après avoir refusé, le Seigneur m'a donné une seconde chance, peut-on dire, ou m'a appelé de nouveau, et là... Eh bien, j'ai répondu à cet appel et j'y réponds encore chaque jour, toute la journée.
Ce deuxième appel était... le premier était à Bétharram, si je
connais
moi,
ça,
et le second à Paris.
À Paris, dans la chapelle de la rue du Bac.
Vous devenez donc... Vous répondez à cette invitation, vous devenez prêtre.
Alors, avant de devenir prêtre, j'ai passé 10 ans dans la fraternité monastique de Jérusalem. Et 9 ans à Paris, où en même temps je suivais les études pour la formation au sacerdoce au séminaire de Paris, puis au séminaire des pères de Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. Et ensuite, après avoir été ordonné prêtre le 25 juin 1994, j'ai été envoyé par la communauté à Vézelay, où j'ai passé une année avant d'arriver à Lourdes.
Comment vous a été annoncé cette arrivée à Lourdes? Est-ce que c'est une demande de votre part?
Alors, c'est très simple. Quand je suis arrivé à Vézelay, les choses étaient difficiles, etc. Je le savais, mais il y a eu un clash. Et dans ce clash, je suis sorti avec une dépression. Et donc, il m'a été demandé par l'évêque de prendre quelques mois de repos. Et j'avais demandé de pouvoir prendre ce temps de repos à Lourdes. On m'a dit non. M'a dit l'évêque, allez dans votre famille, on verra après. Et au bout de quelques mois, il m'a autorisé à prendre contact avec le recteur du sanctuaire en me disant, je lui écris de mon côté.
Donc le 29 mars 1996, vous arrivez à Lourdes pour une mission, enfin on vous dit, 3 semaines.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'était la formule du recteur à l'époque, le père Michel de Roton. Il m'a dit 10 fois, peut-être 20 fois, 50 fois, vous n'êtes pas chapelain, vous êtes ici pour 3 semaines. Et donc, au bout de 21 jours, j'étais tout tremblant et je me suis aperçu plus tard que la formule 3 semaines, c'était demain, on rase gratis. Quoi.
On pourrait dire que vous faisiez des CDD de 3 semaines.
C'est ça, voilà, 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 voilà. Et puis un jour, bon, les choses se sont précisées. Il m'a été demandé de devenir, par l'évêque, de devenir aumônier général de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Ce à quoi mon évêque a répondu. Ce n'était pas moi qui donnais la réponse. Et il n'a dit ni oui, ni non, ni peut-être. Il a dit pourquoi pas. Quelle réponse extraordinaire, tout à fait ouverte.
Tout à fait ouverte. Ouais. Avant de devenir donc l'aumônier général de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, vous me disiez que vous connaissiez Lourdes de l'extérieur.
C'est ça.
Alors que vous partez aujourd'hui en disant que vous connaissez Lourdes de l'intérieur.
C'est ça.
Quelle est la différence entre...
Alors, la différence, c'est que quand vous regardez un match de rugby, vous le regardez de l'extérieur. Et bon, vous voyez un certain nombre de choses, vous connaissez un certain nombre de choses, mais pas tout. Mais quand vous êtes sur le terrain que vous jouez, le rugby, c'est tout à fait autre chose. Bien, pour le pèlerinage, c'est ça. Beaucoup de pèlerins sont très touchés à Lourdes parce qu'ils vont sur les rampes de la basilique du Rosaire le soir, ils voient les flambeaux, tout ça, c'est beau. Ça les touche, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, les pèlerins descendent, ils entrent dans la procession. Et là, ils entrent aussi dans une expérience tout autre. Et donc, moi, avec tous ces pèlerinages familiaux que j'ai pu vivre avec ma famille, avec mon père et ma mère, j'avais un peu ce regard extérieur. Et petit à petit, notamment, là, j'ai beaucoup, beaucoup reçu lors de la première année, puisque je passais mon temps, d'une part, à accueillir, accompagner les pèlerins, à célébrer la messe avec eux, à faire le chemin de croix, à leur parler un peu de Bernadette. Et puis, le reste du temps, j'étais en train de lire l'histoire de Bernadette, l'histoire du pèlerinage, l'histoire de Lourdes. Et très vite, j'ai compris que ce que je vivais avec les pèlerins, c'était le prolongement exact de ce que Bernadette elle-même avait vécu. Alors évidemment sous une autre forme, bien sûr, mais c'était exactement le prolongement. Et plus tard, je me suis intéressé à l'histoire des premiers pèlerinages et j'ai tout de suite compris que si on prend Bernadette, si on prend les premiers pèlerinages, on a un trait droit. Et si aujourd'hui ce trait peut se prolonger jusqu'à nous, c'est qu'on est dans la même histoire. Si on n'est pas dans le prolongement de cette histoire, bien on n'a plus un trait droit. C'est un... une preuve très facile à mettre en œuvre.
Alors, vous arrivez à Lourdes avec les connaissances que vous dites. Hein. Je connaissais Lourdes de l'extérieur. Petit, vous êtes
c'est
souvent
ça.
Venu avec vos parents donc, oui. à Lourdes. Et cet entretien que vous avez eu avec le recteur, qui, au bout de quelques minutes, vous lui dites ce que vous connaissez de Lourdes, il dit que vous ne connaissez pas Lourdes.
Et oui, c'est ça. Alors, j'étais choqué. J'étais très choqué. Et en même temps, quelques mois plus tard, je l'ai remercié. Je l'ai même remercié plusieurs fois. Quand je suis arrivé à Lourdes, de fait, après 10 ans de vie monastique, mon bagage était essentiellement spirituel. Et donc, j'ai accroché, peut-on dire, ou j'ai vu le côté spirituel de Lourdes. Je me souviens, le premier texte que j'ai écrit, je parle de Lourdes comme d'un grand monastère. D'une part, parce que dans les monastères, il y a la prière régulière, matin, midi et soir. Eh bien, ici, c'est ça. On a la messe le matin, on a la procession eucharistique l'après-midi, la procession mariale au flambeau le soir, voilà, le chapelet, le chemin de croix. Donc la vie est rythmée, comme dans un monastère, mais pas pour simplement pour avoir des activités, pour être organisé, mais pour entrer dans une expérience spirituelle.
D'accord.
Ça, c'est Lourdes de l'intérieur.
De l'intérieur.
De même que le joueur de rugby, quand il est sur le terrain, bah, il fait une expérience humaine forte.
Et cette expérience humaine, père, oui. Vous qui avez vécu une période de votre vie longue monastique, se retrouver avec des milliers de gens de toute nationalité, de devoir les prendre, discuter avec eux, ces relations humaines que vous avez vécues, qu'est-ce que ça a dû vous changer à un moment ?
Alors, oui et non, mais dans la mesure où dans une communauté monastique, bon, le silence est très important, mais le fruit de ce silence, c'est que les relations entre frères sont vraies. Sont vraies, c'est-à-dire qu'on va... Il y a peu de banalité, on fait un peu d'humour peut-être de temps en temps, mais on va à l'essentiel. Et ici, quand j'accueillais des pèlerins au cours de la première année, j'ai tout de suite compris que être pèlerin de Lourdes, qu'on le sache ou non, c'était une question de vie ou de mort. Les gens ne viennent pas pour faire du tourisme ou pour passer le temps, ils viennent parce qu'ils ont quelque chose, voilà. Ils ont ou une attente de quelque chose d'un mieux, peut-être de plus élevé, de plus profond, de plus spirituel, ou alors ils sont dans une situation extrêmement grave, catastrophique. Et ils viennent voir Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Et là, on peut pas. On est obligé d'essayer de les rejoindre là où ils en sont, c'est-à-dire voilà, au plus profond d'eux-mêmes.
Lourdes est une église à ciel ouvert. Hein, quand
on
est à la grotte,
c'est
à ciel ouvert. Vous avez dû entendre des témoignages des gens qui étaient en colère, puisque vous dites, quand on vient voir Notre-Dame de Lourdes, c'est que ça ne va pas bien.
Oui.
Ou certains viennent remercier.
Ça,
mais souvent, quand ça ne
va pas bien, on
se rappelle qu'il y a un bon Dieu.
Sûr.
Enfin, on essaye toujours de...
Oui.
Vous avez trouvé des gens qui n'étaient pas forcément des cathos pratiquants.
Oui,
est-ce
mais...
que ça vous a nourri, ça?
Alors, ce qui m'a nourri avant, parce que ce qui est très important, c'est que Lourdes est d'abord un lieu d'humanité avant d'être un lieu spirituel et un haut lieu de l'Église catholique. Et c'est par l'humanité que tout passe. Jésus, dans l'Évangile, ne commence pas à faire le catéchisme. Il commence par écouter, par regarder, parler aux gens, les accueillir, et se préoccuper de ce qui les préoccupe eux-mêmes. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici, dans ce lieu d'humanité, on se rejoint. Et on se rejoint sur l'humanité vraie, avec toutes ses difficultés, toutes ses souffrances. Voilà. Et là, quand vous entendez les pèlerins vous parler, vous prenez ça, c'est pas rien. Mais en même temps, si eux ont reçu la grâce, c'est-à-dire la force de pouvoir vous le dire, vous recevez de Dieu, par Notre-Dame de Lourdes, la grâce, c'est-à-dire la force de pouvoir leur répondre. Peut-être timidement, peut-être maladroitement, mais en vérité.
Beaucoup de gens qui souffrent sont des fois en colère après Dieu. Comment, lorsqu'on est un homme d'église, on peut essayer de réconcilier ces gens qui sont en colère après Dieu, parce que vous arrivez avec en disant Dieu nous aime, mais quand il leur arrive des catastrophes, il dit, il est où l'amour de Dieu? Comment,
alors,
un prêtre que vous êtes, vous pouvez répondre à ça, à cette colère et cette souffrance?
Alors, si on est quelque part dans le monde, c'est difficile. Si on est à Lourdes, c'est facile. Pourquoi ? Parce qu'on leur dit, regardez Notre-Dame de Lourdes, elle vous accueille. Et la grande grâce de Lourdes, ce ne sont pas les guérisons physiques, ce ne sont pas les guérisons spirituelles. La grande grâce de Lourdes est en amont de tout ça, c'est l'acceptation. Et beaucoup de gens viennent ici sur un fauteuil roulant parce qu'ils sont, ils ont un handicap, ils ont une maladie. Et ils repartent sur leur fauteuil roulant, mais avec un sourire radieux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été accueillis par Notre-Dame de Lourdes. Ils ont reçu la grâce de l'acceptation. Et l'acceptation, c'est tout. Voilà.
C'est des petits miracles au quotidien ?
Ah, c'est des miracles.
Petits ou grands ?
Oui, des petits et des grands miracles en continu. Parce que si j'accepte, à ce moment-là, je peux vivre. Je peux vivre. Si quelqu'un a un cancer... Cancer, c'est un cancer, on le soigne, mais bon, c'est douloureux, ça prend du temps, et puis bon, on ne sait jamais comment ça va se terminer, ou plus exactement, on le pressent. Bon. Mais si on l'accepte, ben on vit avec, et on s'aperçoit que la vie est extraordinaire, parce que la vie est infiniment plus forte que ce qui l'entrave, c'est-à-dire ce cancer. Si j'ai un handicap, c'est la même chose. Bien sûr qu'une personne qui boite ou qui a... est handicapée, mais à partir du moment où elle accepte, elle peut vivre pleinement, et c'est le fait de vivre qui lui permet de dépasser son handicap, enfin de vivre avec, donc en le dépassant.
Donc vous débutez votre séjour à Lourdes pour accompagner les pèlerins, et puis vous nous l'avez dit, vous êtes devenu l'aumônier général de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. C'est un peu honorifique quand même de devenir l'aumônier de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Alors peut-être, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc je vais dire qu'est-ce que ça veut dire d'être aumônier. Alors on m'a expliqué.
Expliquez-nous.
Aumônier, disons que l'image qu'on a du prêtre en responsabilité, c'est surtout le curé de la paroisse, c'est le responsable. Donc le curé de la paroisse, à un certain moment, il prend des décisions, il dit c'est comme ça. Bon, l'aumônier, c'est pas du tout ça, l'aumônier, il l'accompagne. L'Hospitalité de Notre-Dame de Lourdes est une association de fidèles du Christ. Ils ont à leur disposition, cette association, à un prêtre qui les accompagne. Voilà. Et donc l'aumônier, il est obligé d'être vraiment beaucoup plus, enfin, à l'écoute. Il n'a aucune responsabilité à prendre, hein, sauf bien sûr les responsabilités liturgiques, mais ça. Et d'accompagner les personnes, donc d'essayer de découvrir leur attente, et puis ce que l'objet de l'association, c'est de participer à l'accueil des pèlerins à Lourdes. Voilà. Et en même temps, les personnes qui viennent, si on vient à Lourdes comme pèlerin, si on vient à Lourdes comme hospitalier, c'est qu'on est forcément quelque part malade. Et si on vient à Lourdes comme prêtre, on est sûrement aussi quelque part malade. Voilà. Alors c'est très intéressant, d'autant plus que l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes est une association qui a des membres, composés de membres d'un très grand nombre de pays. Donc il y a la question des cultures, la question des langues. Ça, c'est passionnant. C'est passionnant de voir comment on peut être chrétien en France, comment on peut être chrétien à Singapour, comment on peut être chrétien en Argentine ou au Texas. Voilà.
On va se retrouver, Père Régis-Marie d'Atessonnière, puisque après avoir donc accompagné et puis être l'aumônier général de l'Hospitalité de Notre-Dame de Lourdes, vous avez décidé de prendre une année sabbatique, et cette année sabbatique, vous avez fait un peu comme Jules Verne, vous avez fait presque le tour du monde, pas en 80 jours, mais en plus longtemps que ça, mais vous êtes parti à la découverte des grottes de Lourdes à travers le monde.
Alors ça, c'est après, mais l'idée première, et l'idée qui m'a tenu à cœur, c'est de pouvoir aller rencontrer à l'autre bout du monde, en Océanie et en Amérique latine, des personnes que j'avais accueillies ici pour savoir d'abord quel était leur contexte et de vie, et d'autre part ce que ça avait changé pour ces personnes.
D'être passé à Lourdes.
D'accord. Et de moi-même ce que je devais changer à Lourdes pour mieux les accueillir.
Ah oui.
Voilà. Et quand j'ai dit ça à l'évêque de l'époque, Monseigneur Jacques Perrier, il m'a dit deux choses. La première, vous leur parlerez de Lourdes, et d'autre part, vous n'allez pas prendre quelques semaines ou quelques mois, prenez une année sabbatique. Effectivement, on était 2 ans avant le jubilé du 150e anniversaire, 2008, et lui-même était très intéressé de connaître le rayonnement de Notre-Dame de Lourdes à travers le monde tel qu'il est aujourd'hui, non pas par des on-dit, mais par quelqu'un qui aurait pu le constater sur le terrain.
Combien de grottes vous avez découvert ?
Alors les grottes, c'est un des aspects.
Oui,
C'est un des aspects du rayonnement. Ce qu'il faut retenir des grottes, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une grotte de Lourdes, une réplique de la grotte de Lourdes quelque part, il y a une histoire. Et au fond, cette histoire, elle est directement, cette grotte de Lourdes, elle est directement liée à Lourdes et à la parole de la Sainte Vierge disant à Bernadette, allez dire aux prêtres que l'on construise ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. Et les premiers pèlerins à Lourdes ont fait de telles expériences qu'ils étaient incapables, par la seule parole, de dire « Ah, venez, allez à Lourdes, c'est extraordinaire, etc. » Non, ils construisaient une réplique de la grotte, ils disaient « Venez, on va chanter l'Ave Maria, venez, on va dire le chapelet, venez, venez, voilà. » On va, à chaque fois qu'il y a une grotte, il y a de l'eau, qui est l'eau de la grotte. Et en Afrique, s'il n'y a pas de source, on met un camion-citerne. Mais voilà, et on accomplit les gestes du pèlerinage, on touche un rocher, on se lave et on boit, on se lave avec l'eau, et on a le flambeau à la main pour la procession mariale au flambeau. Voilà. Et ceci est possible donc autour d'une réplique de la grotte, et on entre dans l'expérience de Lourdes. Et cette expérience de Lourdes, elle passe par l'acceptation de ce que nous sommes. Voilà, ce que nous sommes aujourd'hui dans notre corps et dans notre tête et dans notre âme, et elle nous ouvre à la dimension spirituelle de notre être.
Un souvenir qui vous a marqué dans ce périple, une rencontre, une grotte spéciale.
Alors, est-ce que les souvenirs sont liés à une grotte spéciale?
Peut-être plus une rencontre.
Oui, voilà. Non, la seule grotte que je n'ai pas pu voir, parce que je l'ai appris trop tard, c'était au Costa Rica. Et quand j'y suis allé, il y a déjà un certain nombre d'années, le volcan Arenal était en éruption. Et un hameau a été recouvert par la lave, et le hameau suivant a été menacé. Tout de suite, Les habitants de ce village se sont enfermés dans l'église et ont imploré Notre-Dame de Lourdes, de ce petit hameau, je crois qu'il y avait 80 personnes. Et lors de l'éruption suivante, eh bien, la lave s'est arrêtée contre le mur de l'église.
D'accord.
Ils sont sortis, au bout d'un certain temps, de l'église. Et ensuite, quand la lave a refroidi, donc, ils ont fait des pierres, ils ont coupé en morceaux, ils ont construit une grotte de Lourdes. Et j'étais un peu très déçu, parce que je l'ai appris au moment de partir. Et là, il y a eu un petit clin d'œil du bon Dieu. Le jour du départ, paf, l'avion, qui était une compagnie américaine, je devais passer par les États-Unis pour rentrer. Il y avait un doute sur quelque chose, donc le vol a été retardé pratiquement d'une journée. Et le commandant de bord, quand l'avion a enfin décollé, nous dit « À votre gauche, le volcan Arenal. » Il se trouve que j'étais à gauche contre le hublot. Là, il penche son avion et j'ai vu l'éruption. Alors évidemment, on était bien au-dessus, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant de se trouver au-dessus d'un volcan là, au rouge qui projette des cailloux, des gros blocs de pierre de partout. Très impressionnant, voilà.
Quelques pays que vous avez traversés pour qu'on se fasse une idée de votre périple et du nombre de grottes que vous avez. Parce que je me souviens que nous avions une émission de radio hebdomadaire où on s'appelait, vous étiez à l'autre bout du monde, il y avait le décalage horaire, en fait c'était extraordinaire. Mais toutes les semaines, on vous avait au téléphone et on vous expliquait ce que vous aviez fait et une des grottes de Lourdes ou une rencontre.
Alors, un des pays qui m'a le plus touché, c'est le Vietnam. Pourquoi ? Parce que l'église catholique existe, mais elle est quand même sous contrôle. Les églises ouvrent à 4h du matin et ferment à 6h. Mais pendant ces 2h, c'est la grand-messe tous les jours. La grand-messe du dimanche. Voilà. Les églises sont pleines. Et l'église ouvre à nouveau le soir de 19h à 21h, quelque chose comme ça. Voilà. Mais il y a beaucoup de grottes de Lourdes. J'en ai même vu sur un balcon. Beaucoup de grottes de Lourdes qui sont un peu cachées, c'est-à-dire des gens qui n'osent pas aller à l'église, mais qui vont dans la grotte du quartier où voilà, ils sont moins remarqués peut-être. Et puis la qualité de l'accueil, au Vietnam, le grand sanctuaire, c'est le sanctuaire de Lavang, qui est à peu près au centre du pays. Et après une sorte de chute du communisme, un pèlerinage a été autorisé par les autorités à Lavang. Et donc tout le pays a convergé, qui à motocyclette, qui en camion, en car, etc., ou autre voiture, vers ce sanctuaire, et ont passé la nuit dans les paroisses. Et avant de repartir, on célébrait la messe. Mais comme l'église était trop petite, on célébrait la messe devant la grotte de Lourdes. Voilà.
Dans vos périples, lorsque les gens apprenaient que vous étiez chapelain de Notre-Dame de Lourdes, quel était l'accueil qui vous était réservé ? Je pense que c'était quelque chose d'honorifique pour eux.
Alors, chapelain, Notre-Dame et Lourdes, sur ces trois mots, il y en a un qui écrase sous les autres, c'est Lourdes. Voilà, Lourdes, c'est voilà.
Vous en avez pris conscience, là.
Oui, bien sûr. Bien
est-ce
sûr.
Que vous pensez que, vous qui côtoyez bien cette ville, est-ce que vous pensez que les gens qui habitent ici ou dans la région, ils ont cette notion de l'importance que le mot Lourdes peut représenter dans le monde entier ?
Non, et je l'applique à moi-même, puisque quand j'étais jeune, adolescent, que je voyageais déjà un petit peu, pour expliquer où était Pau, je disais « c'est pas loin de Biarritz ».
Vous prenez pas Lourdes comme référence.
Non, 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 ouais. non. J'avais pas compris que voilà. Puisque vous parlez du rayonnement de Notre-Dame de Lourdes à travers le monde, nous, en Bigorre, nous pouvons comprendre pourquoi. Parce que le sanctuaire Notre-Dame de Garaison est au diocèse ce que Lourdes est à la planète. C'est-à-dire que si vous allez en Bigorre, vous dites Garaison, là il se passe quelque chose. Comme dit San Antonio, un ange passe. Et quand vous dites Lourdes quelque part, voilà. C'est ça la grâce. Oui.
Vous, quand même de votre périple, vous avez fait un document, vous écriviez à Monseigneur Perrier,
oui,
vous avez fait
ça.
Un document assez important,
oui,
vous
oui.
lui décrivez tout ce que vous aviez fait, les endroits où vous étiez, les rencontres, et puis vous avez écrit un livre.
J'ai écrit un petit livre où il y a 80 fioretti qui commence par Lourdes et qui ensuite permet de voyager à travers le monde. À chaque fois, ce sont des histoires toutes simples, des histoires mais plus extraordinaires les unes que les autres.
Des témoignages.
Des témoignages, des rencontres. Voilà.
Vous revenez donc à Lourdes pour le jubilé 2008 et le 150e anniversaire des apparitions.
C'est ça.
Et là, lorsque vous revenez à Lourdes, après cette année un peu particulière d'avoir traversé pratiquement le monde entier, vous devenez cérémoniaire responsable de la liturgie.
Oui, ça c'est un peu plus tard. Oui, je crois que c'est à partir de 2009. J'avais été préparé, c'est-à-dire que dès que je suis arrivé ici, j'avais déjà été cérémoniaire dans la fraternité monastique de Jérusalem, et dès que je suis arrivé ici, pendant l'hiver, je travaillais avec le cérémoniaire, qui était le père Ferretti à l'époque, et également le père Dullier. Voilà. Mais là, le fait de participer ponctuellement à quelque chose de la liturgie est une chose, le fait d'être en charge de la liturgie, c'est-à-dire de mettre en œuvre les deux processions quotidiennes pendant la saison des pèlerinages, et la messe internationale deux fois par semaine, le dimanche et le mercredi, c'est autre chose. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, ces célébrations sont mises en œuvre avec des gens qui n'étaient pas là la fois précédente et qui ne seront pas là la fois suivante. Mais en même temps, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que profondément, la liturgie de Lourdes nous est donnée. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. À nous de l'accueillir pour la mettre en pratique.
Quand vous êtes arrivé et que vous prenez ces responsabilités, est-ce que vous avez changé des choses par rapport à votre arrivée à Lourdes, les rencontres, ce voyage dans le monde entier où vous avez vu l'importance réellement ? Est-ce que vous avez modifié certains rites, certaines...
Alors oui, j'ai apporté des modifications de forme, mais pas de fond. Oui. Hein, puis j'ai essayé de mieux comprendre comment améliorer les choses. Tout simplement.
Qu'est-ce qui est dur à Lourdes, pour vous, une complexité d'une personne qui franchit le portail, que ce soit la porte Saint-Michel, Saint-Joseph? Oui. Quel est le challenge aujourd'hui de chapelain?
Alors, je vais vous donner une parabole. Quand j'avais 20 ans, j'ai passé une année à Genève, en Suisse. Genève, il y a le lac, et le lac, on le sait, est traversé par le Rhône. Voilà. Et moi-même, il m'est arrivé, à partir d'un bateau, de plonger et avec d'autres jeunes. Et puis à un moment, vous entendez quelqu'un qui crie « Je suis dans le Rhône !» Effectivement, on sait qu'on est dans le Rhône parce que ce n'est pas la même température. Et des années plus tard, je suis venu à Genève, je ne sais plus pourquoi, de Paris, en avion. Et j'ai vu, avant l'atterrissage, ça se voit très visiblement, ce n'est pas la même couleur, le Rhône qui traverse. Voilà la parabole de Lourdes, c'est-à-dire qu'à Lourdes, vous voyez des gens de tous les côtés, mais il y a quelque chose qui est la grâce de Dieu qui passe au milieu. Alors, où vous y êtes, où vous n'y êtes pas. Et cette grâce, eh bien, pour moi, un des moments les plus forts de l'expérience du pèlerinage, c'est la procession mariale au flambeau. Au départ, c'est très difficile, il y a de la tension, il y a des gens qui se bousculent, etc. La procession s'élance, elle se met petit à petit un peu moins en désordre. Et puis quand on arrive au fond du sanctuaire, au calvaire des Bretons, voilà, là, ce virage, voilà, on entre, voilà, on commence à être un peu pacifié, on entre vraiment dans une autre expérience de soi-même. On n'est plus à se bousculer, on n'est plus à penser qu'on a mal aux pieds de marcher, mais on entre dans dans la dimension spirituelle de notre être. Et quand on arrive sur l'esplanade, les fameux lacets qui sont en réalité des M, qui dessinent le M de Marie, eh bien, on a l'impression qu'il y a une légèreté, on a l'impression qu'on est parti au pas de charge comme des militaires, et on arrive avec des pas de danse extraordinaires. Voilà.
C'est d'après, entre parenthèses, un sondage qui a été fait, ce qui a le plus marqué les gens, effectivement, c'est cette veillée mariale au flambeau.
C'est ça, parce qu'on entre dans l'expérience profonde de Bernadette et dans l'expérience de la foi chrétienne, dans l'expérience de ce passage. Bernadette, dès la première apparition, sans bouger, en restant à sa place, en recevant le signe de la croix, elle passe dans sa souffrance, dans la faim, elle est analphabète. Elle découvre à l'intérieur d'elle-même, par cette relation, elle découvre le royaume des cieux présent au milieu de nous.
Un exemple d'un changement que vous avez opéré lorsque vous étiez cérémoniaire. Un petit changement, quelque chose qui...
Alors, je commençais par le plus facile, c'est-à-dire par le matériel. Voilà, en faisant construire un autre brancard pour la statue de Notre-Dame de Lourdes, en ayant des flambeaux qui soient plus minuscules, mais qu'on puisse poser sur le sol quand on est arrêté. Voilà, des choses comme ça.
Des choses comme ça, des détails. Voilà.
Et puis ensuite, Monseigneur Perrier m'a dit une phrase essentielle. Il faut que vous ayez des gens à vous dans la procession. Et donc, en constituant une petite équipe de 4 ou 5, d'être à chaque point charnière de la procession. Voilà.
D'accord, pour avoir un peu le contrôle et votre vision.
Oui, c'est ça. Pour y a un groupe spécifique, un pèlerinage, pour que quelqu'un l'accompagne. Voilà.
Vous avez beaucoup parlé et prêché Lourdes, vous en êtes devenu le spécialiste, et on va parler d'une autre aventure qui vous est arrivée, celui de rencontrer au départ les responsables du spectacle Bernadette de Lourdes.
Ah oui.
Alors beaucoup s'y sont essayés, il y a eu des films, il y a eu des spectacles, on pense à celui de Robert Hossein, on parle du film Jean Sagols. Quand vous les voyez arriver, quand on vous dit de les accueillir, comment ça se passe?
Ça se passe très mal. Et ils me l'ont rappelé plusieurs fois. Je leur ai demandé ce qu'ils attendaient de moi, que vous nous parliez de Bernadette, très bien. Mais je tiens à vous dire d'abord que votre truc, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes s'y sont essayées et ont échoué. Pourquoi? Parce qu'on vient à Lourdes, non pas pour voir un spectacle, mais pour participer à la procession mariale au flambeau. Voilà, ils m'ont écouté et j'avais préparé une feuille de papier avec une douzaine de livres à lire, des livres sérieux, gros et épais, du père Laurentin, le grand historien de Lourdes. Et quelques 2-3 mois après, j'ai revu une partie d'équipe et notamment le metteur en scène Serge Denoncourt qui lui a tout lu, tout lu. Et donc c'était extraordinaire, d'abord c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. On était sur le même terrain, sur un pied d'égalité. Si je disais quelque chose, il répondait. S'il me disait quelque chose, je répondais. Voilà, la relation fonctionnait. Et donc, à partir de là, Serge Denoncourt, lui, il est comme dit Astérix, il est tombé dans la, on dit dans Astérix, il est tombé dans la marmite. Voilà. Ouais. Et il a tout de suite eu cette intuition de vouloir présenter Bernadette, non pas à partir de la grotte, mais à partir de ce qui se passait en ville, et notamment des interrogatoires du commissaire, du juge, de ses parents, du curé, etc. Voilà, du procureur impérial. Et à partir de là, il a pu, grâce à des textes qui ont été donnés du père Laurentin, qui avait mis bout à bout tous les interrogatoires, il a pu constituer le texte du spectacle. Et ce qui est très impressionnant, c'est que ce n'était pas ce qu'on attendait de lui, il est metteur en scène. Et donc il y avait deux personnes qui devaient écrire le texte, qui se sont effacées devant lui, voilà, pour qu'il mène à bien son projet, qui était évident. Et dans un second temps, il a eu cette belle intuition d'approfondir un petit peu la relation de Bernadette avec son père et avec sa mère. Et puis la relation du père avec la fille et de la mère avec la fille. Voilà.
Oui.
Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que grâce à lui, tous les membres de la troupe, une trentaine de personnes à peu près, sont entrés dans l'histoire de Lourdes. Non seulement parce qu'évidemment le spectacle a été donné à Lourdes, donc ils habitaient à Lourdes, ils voyaient bien ce qui se passait dans la rue, ils venaient au sanctuaire de temps en temps, puis un peu plus souvent, puis finalement ils étaient presque tous les jours, ils faisaient partie de... Voilà. Mais il les a fait entrer par son talent, et sa grande expérience et son talent de metteur en scène, il les a fait entrer dans la dimension profonde de Lourdes, c'est-à-dire la dimension d'humanité dans laquelle vous découvrez votre dimension spirituelle.
À quel moment vous avez basculé en se disant, là, ce spectacle, il y a autre chose? Quand le metteur en scène revient à égalité avec vous en disant, oui, c'est pas des rigolos, ils ont travaillé leur dossier, quand est-ce que vous avez changé d'avis sur ce spectacle?
Alors là aussi, il y a eu une première réaction négative de ma part. Ils m'ont montré, donné un exemplaire de leur texte, et là je leur dis, non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que vous racontez une histoire. Qu'est-ce qu'une histoire? C'est une suite d'événements. Si vous changez la suite des l'ordre des événements, vous changez l'histoire. C'est pas grave, vous pouvez le faire. Mais attention, nous sommes à Lourdes. C'est une histoire dans laquelle le bon Dieu intervient. Si vous changez l'histoire, il n'intervient pas. Voilà. Faites votre choix. Là, ils l'ont compris. Et ensuite, la première fois où c'était à la salle du conseil municipal de la mairie de Lourdes, où j'ai pu entendre les deux ou trois premières chansons, et la première, j'ai pleuré, voilà, d'emblée, parce que c'était d'une justesse. Voilà, c'était Lourdes. C'était Lourdes. Pas Lourdes creux, mais Lourdes avec sa grâce.
Et là, vous avez dit, là, il va y avoir quelque chose. Et donc, le spectacle est joué, il a un succès. Aujourd'hui, il fait un peu comme vous avez fait, il va faire le tour du monde.
Oui.
Vous avez participé un peu à l'élaboration de ce projet. Hein. Vous étiez un peu le référent pour le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
J'étais un peu l'aumônier, comme je le disais tout à l'heure, pour l'hospitalité. Je n'ai pas donné d'instruction. J'ai donné mon avis quand on me l'a demandé. Mais surtout, j'ai essayé de leur retransmettre ce que je savais de Bernadette et de ce que je vivais moi-même de l'esprit de Lourdes.
Est-ce que c'est pas ce spectacle, vous disiez qu'on vient à Lourdes pour quelque part assister à la vieille Marielle au flambeau et c'est très bien, mais est-ce que ce spectacle n'est pas un peu le mode d'emploi où au moins en une heure et demie on raconte ce qui s'est passé ici, parce que beaucoup de gens, vous le disiez tout à l'heure, quand ils arrivent à la grotte, ils sont devant la grotte, ils disent mais où est la grotte de Lourdes? Est-ce que quelque part ce spectacle, au moins les gens qui l'ont vu, quand ils repartent, ils savent au moins ce qu'il s'est passé dans cet endroit. Est-ce que ça manquait pas à Lourdes?
Alors, ça rappelle, je ne sais pas si ça manquait, mais ça rappelle quelque chose d'essentiel dans ce que vous venez de dire, c'est que l'expérience de Bernadette est faite pour être racontée. Je dirais à l'ancienne, le soir à la veillée. Alors ça, c'est toute la Bible, mais c'est aussi toute la tradition de nos vallées, de nos campagnes, où jusqu'à la génération de nos parents, eh bien le soir, voilà, on se réunissait, souvent avec quelques voisins, et puis quelqu'un racontait une histoire. Une histoire, il parlait de son grand-père, il parlait de telle chose qui s'était passée, voilà. Et puis cette histoire, on en était finalement imprégné, et on s'appropriait son origine à travers... Mmh. Eh bien, l'histoire de la sainte, c'est exactement ça. C'est des gens qui se racontent leur histoire. Et l'histoire de Bernadette à Lourdes, c'est à raconter tout simplement. Et cette histoire, donc, chacun, celui qui la raconte, va l'éclairer par sa propre expérience, il va l'éclairer par la Bible, il va l'éclairer par ce qu'il vient de vivre le jour même, il a rencontré telle personne qui lui a dit ceci, voilà. C'est une histoire vivante.
On poursuit parce que votre séjour à Lourdes a été très très riche. Vous avez aussi, Père Régis-Marie, vous avez publié plusieurs ouvrages.
Oui.
Là aussi, donc, vous êtes auteur.
Alors, c'est ça. J'ai publié 9 livres exactement sur Lourdes, mais avec un point important. Plusieurs de ces livres sont traduits dans plusieurs langues, ce qui me paraît très important, puisque Lourdes est un sanctuaire international. Alors, c'est important d'écrire parce que ça reste. Et ça permet à d'autres, ça permet la transmission... de pouvoir, qui est un point essentiel, de pouvoir s'approprier l'histoire de Lourdes et à travers l'histoire de Lourdes, de pouvoir avoir accès à cet esprit qui nous est donné.
Donc, auteur de 9 livres traduits, c'est quelque chose qui peut de fierté aussi, quelque part?
Alors oui, bien sûr, mais c'est une fierté toute relative. Un jour, j'étais en voiture avec le père René Laurentin, le grand historien de Lourdes, et je lui demande « Combien de livres avez-vous écrit ?» Il me répond « 158 ». Bon, alors 9, évidemment, c'est pas beaucoup. Et puis le lendemain, j'étais également en voiture seul, je mets la radio et on annonce la mort d'un auteur de romans policiers qui avait écrit 400 bouquins. Oui, tout est relatif.
Voilà. Oui, mais dans votre passage à Lourdes, d'avoir écrit, avoir pris le temps d'écrire et puis que ce livre soit traduit, c'est, même s'il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas la quantité qui
c'est
qui
ça.
Fait la
mais c'est, du... c'est surtout un appel à écrire, c'est un appel à l'humilité, d'abord quand on écrit et ensuite quand on relit. 6 mois après la publication, eh bien on s'aperçoit que beaucoup de choses nous a été donné. Voilà.
D'accord.
Comme il est dit dans les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons écrit. Voilà.
Régis Marguerite de La Tessonnière, donc prêtre, auteur de livres, mais aussi un homme de radio. Vous avez, pendant quelques années, aussi participé à faire de la radio, à Radio Notre-Dame, à
c'est
Paris, le soir, de 22h à minuit, et l'émission s'appelait Écoute dans la nuit.
C'est ça, 11 émissions par an pendant 11 ans. Une expérience extraordinaire. D'abord parce que ça permet bien sûr de parler de Lourdes, mais ça permet surtout aussi, avec le dialogue, grâce au dialogue possible avec les auditeurs, eh bien d'avoir un peu le mode d'emploi sur comment vivre Lourdes quand on n'est plus à Lourdes. Je me souviens d'une dame qui est certainement un peu âgée, qui disait, ben voilà, maintenant je suis trop âgée pour aller à Lourdes, mais sur ma table de nuit, j'ai une carte postale de la grotte, voilà. Et dès que j'ai un peu d'insomnie pendant la nuit, je me tourne vers cette carte postale. Extraordinaire.
Oui, extraordinaire.
Elle met en pratique cette parole de Bernadette. Quand Bernadette est devenue religieuse à Nevers, elle dit ceci: tous les jours, je fais en esprit mon pèlerinage à la grotte.
Un regret peut-être, en parlant de radio, c'est que vous aviez ce projet, que vous aviez dit, de créer peut-être une web radio qui permettrait aux gens, en 10 minutes, un quart d'heure, de savoir ce qui va se passer le jour même à Lourdes avec le programme en plusieurs langues.
Mais bon, non, c'est pas un regret. C'est pas.
C'est un projet que vous
aviez... C'est un projet, voilà, mais enfin...
Que vous aviez décliné, que vous aviez
découvert
ailleurs.
Il vaut mieux avoir trop de projets et qu'on ne réalise pas que le contraire.
Le 10 septembre prochain, vous allez donc quitter le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Vous allez donc prendre la direction de Bayonne. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors, je serai prêtre auxiliaire dans une paroisse. C'est une expérience nouvelle pour moi, puisque je n'ai passé qu'une année en paroisse, la première année de sacerdoce à Vézelay, en Bourgogne, dans l'Yonne. Mais en même temps, j'y serai à temps partiel. J'y serai 2 fois 3 mois par an pour conserver les 2 autres fois 3 mois par an pour pouvoir être dans un monastère. Vous voyez, j'ai commencé par la vie monastique et là, je terminerai par la vie monastique. Je serai en Suisse alémanique, dans le canton de Nidwalden, qui est un des cantons d'origine de la Suisse, dans un monastère de bénédictines qui est perché dans la montagne. C'est pas très haut, 1162 mètres d'altitude, mais il faut quand même un téléphérique pour y accéder. Et voilà, pour moi, c'est important de pouvoir, ayant maintenant 75 ans, d'avoir un rythme de prière, de reprendre un rythme régulier, monastique, en même temps de pouvoir continuer à marcher, dans la montagne qui est magnifique.
Puisque vous marchez à peu près plus de 10 km par jour.
Oui, bien sûr, oui. Et puis de pouvoir continuer à écrire. Voilà.
Et vous avez des projets d'écriture?
Ah oui.
Ça, beaucoup
oui.
Sur Lourdes?
Alors, je fais une pause. J'ai un livre qui est en préparation. Donc, toute la documentation est rassemblée. Je vais écrire sur une religieuse, une carmélite, Mère Marie de la Trinité, qui a été la 5e carmélite de France et qui a fondé 10 carmels. Donc c'est une époque fabuleuse, la fondation du carmel thérésien en France, sous Henri III, Henri IV. Voilà, c'est une époque à laquelle notre époque ressemble peut-être un peu.
Un souvenir qui vous a marqué, quand je vous l'ai proposé tout à l'heure, on m'a dit, je ne vous dis pas ce que c'est, je vais vous le raconter. Alors j'attends avec impatience des souvenirs.
Je suis arrivé donc à Lourdes le 29 mars 1996 à 13h10. Je me suis présenté à la maison des chapelains. J'ai dit mon nom, Père Régis Marie. On m'a dit, bon non, on ne vous attend pas. Et alors finalement, j'ai rajouté mon nom de famille. Ah oui, d'accord, oui, vous êtes attendu. J'étais accueilli par le prêtre, le père Fernand Barraquet. Et ensuite, au bout d'un certain temps, il m'a montré 2-3 choses, il m'a montré ma chambre. Et il m'a donné rendez-vous pour plus tard dans la soirée. Donc j'ai pu aller à la grotte. Je suis allé à la grotte, je suis agenouillé, j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, quelques secondes, minutes après, qu'est-ce que je vois? Donc le 29 mars, il n'y avait pas foule. Je vois entrant dans la grotte 5 personnes de ma famille, un cousin de mon père, sa femme et 3 de leurs 5 enfants. Et j'ai tellement été scotché que j'ai pas pu me lever, aller les embrasser. Voilà. Bon,
ça a commencé comme ça.
Ensuite, je retourne à la maison des chapelains. Je vois le père Barraquet qui m'emmène à la chapelle des confessions, il m'avait préparé une étiquette avec mon nom, bon, simplement pour que, une prise de contact, dont j'y ai passé une demi-heure ou trois quarts d'heure. Il met mon nom sur l'endroit prévu. Et puis à un certain moment, j'entends le garde, pas très longtemps après, qui dit « on ferme, on ferme ». Bon, alors je sors de ma cage confessionnelle. Et là, je vois une dame qui lit mon nom et elle me dit « votre nom ne m'est pas inconnu, je suis Madame Soubirous, pardon ». Votre nom ne m'est pas inconnu. Je lui dis, bah, écoutez, vous connaissez mon père. Voilà. Les deux choses qui se sont produites au moment de mon arrivée.
D'accord.
Une chose négative, deux choses positives. Et en découvrant, en travaillant, en lisant l'histoire de Bernadette, l'histoire de son pèlerinage.
La chose négative, je ne la saisis pas, c'est le fait que vous n'étiez pas attendu.
Ah non, que je n'étais pas attendu.
D'accord.
Oui. Moi, j'ai préparé quand même depuis plusieurs mois à venir, etc. J'avais le cœur un peu chaud. Ah, non, non, non.
Donc, douche froide, donc.
Douche froide, c'est ça. Voilà. Et j'ai donc compris que Bernadette a tout reçu au premier moment de la première apparition, quand la dame lui transmet le signe de la croix. Et là, elle entre dans le cœur de l'expérience de Lourdes, sans bouger, en restant là où elle est, avec toutes ses difficultés, sa souffrance, sa faim, etc. Elle entre dans ce royaume des cieux présent au milieu de nous, présent dans son propre cœur. Voilà. Et donc, j'ai compris que tout m'avait été donné à ce moment-là, et que c'était pour moi un point de départ qu'il me fallait approfondir.
Lourdes vous a transformé ?
Je ne parle pas au passé, je parle au présent. On peut le dire au présent. Oui. Lourdes ne cesse de me transformer.
Vous partez avec quel état d'âme, du coup, de quitter le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, partir pour, voilà, vous l'avez dit, entre montagne et océan.
Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu Roger Federer, qui parlait à des étudiants américains, qui leur disait, écoutez, moi, je n'ai pas fait d'études, j'ai arrêté à 16 ans. Mais maintenant que je suis joueur de tennis retraité, je peux dire ce que j'ai fait. Bon, et ben pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que notre vie est faite d'étapes. Bon, j'étais un nourrisson, j'étais un adolescent, un adulte, etc. Maintenant, je suis dans le troisième âge. Il est bon de quitter Lourdes, bien sûr. Pourquoi ? Pour, d'une part, ressaisir tout ça. Et pour, le plus important, ce n'est pas d'être à Lourdes, c'est de vivre Lourdes. Et le jour de mon arrivée, quelques jours après, il y a eu un départ de chapelain. Et le père Nino Bucca, qui était un chapelain italien, a simplement dit ceci: je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir été à la grotte tous les jours. Là, j'ai entendu ça. Si on est à Lourdes et qu'on ne va pas à la grotte, pourquoi être à Lourdes ? Voilà. Et le plus important, c'est de vivre Lourdes. C'est de vivre Lourdes. À Lourdes, on a en quelque sorte l'appartement témoin. Et à nous, cet appartement témoin, de le reconstruire là où nous sommes.
Comme exemple.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Père Régis Marie de la Tessonnière. Vous allez donc nous quitter. Vous avez fait pas mal de cartons d'invitation. C'est quelque chose aussi, vous ne partez pas comme un voleur. Vous souhaitez aussi réunir les gens avec qui vous avez collaboré ou avec qui vous avez peut-être lié des amitiés.
Oui, bien
pour
sûr.
Partir.
Bien sûr.
Et donc, vous allez faire un pot pour tous ces gens-là.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et avec joie. Avec
et
joie,
avec joie.
Avec joie.
Merci beaucoup, Père Régis Marie de la
Tessonnière.
Bon vin à vous. Et puis,
merci à Radio Présence.
Vous connaissez l'adresse. Et puis, voilà, lorsque vous aurez écrit plusieurs livres, mais n'hésitez pas à venir nous en parler.
Le prochain sera sur Lourdes.
Sur Lourdes. Donc, après, vous serez bien sûr le bienvenu. Merci beaucoup,
merci
Père
Régis
Marie de la Tessonnière. À très bientôt.